Bonjour à tous et bienvenue sur Le Fil, la web radio du cours maintenant, pour l'émission Melting Pot. Aujourd'hui, dans notre série Déblaterne, nos débatteurs abordent un sujet international.
Bonjour, nous sommes la classe de Terminale 1, nous débattrons dans le cadre de l'EMC à propos du sujet « Le droit pénal international est-il efficace face à des peuples en danger ?»
Dans le camp des pauvres, il y a moi, Sarah Danels et Axel Bilia qui est absente actuellement.
Dans le camp des contres, il y a moi, Lila Morel.
Et moi, Simon Botta.
Pour commencer, le droit pénal international a débuté après la Seconde Guerre mondiale. Il regroupe des pays et il permet de punir des États plutôt que des personnes seules. Pour débuter, j'aimerais rappeler que le droit pénal international a permis la création de différentes notions, donc le nom de génocide ou de différents crimes de guerre. On les a vus lors du procès de Nuremberg qui a permis d'incriminer différents nazis. Les chefs d'accusation sont complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
D'accord, mais le problème, c'est que de nombreux crimes aujourd'hui sont commis contre l'humanité, exercés par un régime ou contre une minorité. Par exemple, en Chine, on a vu qu'il y avait de nombreux abus visant les musulmans turciques, donc les Ouïghours, qui constituent des infractions qui sont commises dans le cadre d'une attaque, qui peut être généralisée et systématiquement dirigée contre une population ou une minorité. On a pu observer que ces peuples subissaient de la torture, de la détention de masse, des persécutions. Donc on a vu que en Chine, il y avait environ 1 million de Ouïghours qui étaient détenus dans des infrastructures de détention de masse.
Je comprends, oui. C'est vrai qu'il y a des moments où le droit pénal international n'a pas encore fait son travail. Mais j'aimerais cependant rappeler qu'il a permis de rendre justice à plusieurs peuples opprimés. Donc on peut parler encore une fois du procès de Nuremberg où il a jugé les nazis pour le génocide des juifs et des tziganes, ou encore le jugement au tribunal international pour l'ex-Yougoslavie en 1993 qui a permis le jugement des responsables du génocide de Srebrenica.
J'aimerais souligner que la justice pénale internationale a connu de nombreuses difficultés matérielles pour juger ceux qui ont été impliqués dans un crime de masse. Notamment après la Seconde Guerre mondiale, seules les personnes les plus haut gradées du Reich furent condamnées, pendant que ceux qui ont commis les crimes sont passés entre les mailles du filet.
Encore une fois, ce droit pénal international permet surtout, comme on l'a dit précédemment, de juger l'État. Et du coup, il est compréhensible que tous les chefs ne soient pas jugés. Et j'aimerais rappeler encore une fois que d'autres crimes contre l'humanité ont été punis. On peut parler du tribunal spécial pour la Sierra Leone qui a été installé en 2003 et qui a permis encore de juger d'autres crimes de guerre en Sierra Leone en 1996.
Oui, d'accord, je comprends. Mais en fait, l'éloignement de ces tribunaux par rapport au lieu où ont été commis ces crimes, les jugements s'effectuent seulement dans l'hémisphère nord. Donc il est plus difficile de juger les génocides commis par exemple en Afrique avec comme au Burundi.
Je comprends, mais je vais encore une fois reprendre l'exemple de la Sierra Leone. Donc le tribunal a été installé à l'endroit des crimes. Ou encore, il y a un autre tribunal, Cambodja, qui a été mis en place pour punir les crimes des Khmers Rouges. Donc on peut voir qu'il y a bien des tribunaux qui ont été placés aux endroits des crimes et non pas seulement dans l'hémisphère nord. De plus, nous pouvons voir que ces organisations internationales sont intervenues pour la paix. On peut parler de l'intervention de l'armée japonaise, donc la première après la Seconde Guerre mondiale, qui a eu lieu au Cambodge entre 1992 et 1993 pendant le conflit cambodgien.
Alors certes, dans cette région du monde, il y a pu avoir des aides pour la paix. Dans d'autres régions, comme dans les régions du Myanmar, il y a eu une obstruction de l'aide humanitaire par régime, et cela constitue une violation du droit international humanitaire. Donc je reprends mon exemple. Dans cette région du monde, lors d'un conflit armé, la junte militaire a empêché l'aide humanitaire d'agir. Donc des civils se sont retrouvés sans protection, alors que ça devait être dans le droit.
Cependant, peut-être qu'il n'agit pas encore entièrement, mais le droit pénal international a déjà permis de protéger des plus vulnérables. On peut parler ils ont donné un refuge pour protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre, comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de différentes guerres, qui a été mis en place par l'ONU. Ou encore, le droit pénal international permet de protéger des enfants. On peut parler de la Convention internationale du droit de l'enfant qui a été faite par l'UNICEF en 1989. On voit qu'il aide ces peuples qui sont en danger. Malheureusement, je comprends que ce n'est pas encore le cas pour tous.
Oui, j'entends bien, mais le problème, c'est que les tribunaux ad hoc, comme le TPIY, ont pu subir des pressions des opinions publiques des pays et des ONG, comme l'ONU, en réaction à l'échec de la communauté internationale face au génocide, puisqu'on a vu qu'au Rwanda, il y avait eu 3 génocides au cours du XXIe siècle. Donc le premier génocide survenu est le Hazan en 2000, le Maupass de 2008 à 2009 et le Guichua en 2010.
Je comprends, j'entends ce que vous dites, mais je veux notifier que les choses avancent. En effet, de nombreux pays sont soumis à la même juridiction, ce qui permettra au bout d'un moment de punir tous ces crimes. En effet, la Cour pénale internationale, qui a été inaugurée en 1998, permet de juger toute personne appartenant à un État membre. Et il y en a actuellement 123 depuis 2016.
Alors, votre argument est très intéressant, car justement, lors de mes recherches, j'ai pu constater que lorsqu'un pays n'est pas membre de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire qu'il n'a pas signé le traité de Rome, une enquête est impossible sur le pays accusé. Ainsi, lorsque la Chine, avec les Ouïghours, les a attaqués, les a mis en danger, la Cour internationale n'a rien pu faire, car la Chine ne faisait pas partie du traité, il n'avait pas signé le traité de Rome. Et pourtant, on parle dans cette région du monde de génocide, de crimes contre l'humanité et même d'esclavage moderne, et personne ne fait rien. À cela, on peut rajouter que lorsqu'un pays a de trop puissants alliés, le droit international a du mal à s'imposer. Par exemple, dans la Corée du Nord, qui est accusée de crimes contre l'humanité, personne ne fait rien car elle possède l'arme nucléaire et elle a des alliés puissants comme la Chine et la Russie, qui s'imposent fortement à l'intervention de la Cour pénale internationale.
Et je comprends par rapport à vos arguments que le droit pénal international a plutôt servi à punir des crimes qu'à vraiment les empêcher. Si je peux conclure, je dirais qu'il permet de protéger des peuples de différents dangers, mais surtout de rendre justice aux peuples qui ont subi des massacres.
Effectivement, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, pensons que le droit pénal international n'est plus efficace aujourd'hui, puisque encore des crimes contre l'humanité sont produits en raison de ces failles, comme actuellement en Russie. En effet, les arguments cités renforcent l'idée qu'il n'est pas efficace dans la protection des peuples, puisque, oui, les jugements ont lieu, mais les actes ne se font pas à raison de divers facteurs, comme la guerre, par exemple.
Merci de nous avoir écoutés.